France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une humoriste qui s'est imposée comme l'une des voix les plus singulières de la scène française. Son humour, souvent piquant, parfois tendre, toujours lucide, croise l'intime et l'époque avec une justesse rare. Vous l'avez peut-être connue pour ses chroniques ici même sur France Inter, pour son regard ironique sur les injonctions du quotidien et pour cette manière de dire les choses sans phare avec une élégance, désinvolte. Elle est actuellement en tournée avec son spectacle La nuit, je mens, un titre à la fois mystérieux et évocateur, où elle explore nos contradictions, nos faux-semblants et nos obsessions modernes, tout en nous faisant rire de nous-mêmes. On va parler d'humour, bien sûr, de son parcours, de ce qui nourrit son regard sur la société, mais aussi de la frontière entre sincérité et mensonge, entre humour et vérité. Morgane Cadignan est notre invitée ce soir et on est ravis de l'accueillir pour une heure à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Wow. Morgane, bonsoir.
Bonsoir, on ne m'a jamais aussi bien présenté.
C'est vrai ?
Ah vraiment.
Est-ce qu'on t'a bien présenté ou juste c'est une présentation et tu la prends parce que c'est une présentation ?
Non, franchement, il y a des beaux compliments, quoi. Ah, bah, c'est, cool. C'est précis, si mes proches écoutent, inspirez-vous, quoi.
J'espère que ça me ferait plaisir qu'ils écoutent. on te voit justement parce que j'ai eu la chance, moi, de voir La Nuit, je mens, qui est ton nouveau spectacle.
Merci.
Donc on va en parler, bien sûr, mais on va aussi raconter un peu toi, ton
Avec
parcours.
Plaisir.
Et je me suis demandé, bon, qu'est-ce qui donne envie finalement à quelqu'un de se lancer dans ce milieu-là. Et en fait, toi, t'as pas commencé avec ça, t'avais commencé avec la publicité.
J'avais commencé avec...
Raconte-nous ça.
Alors, j'avais commencé avec la publicité, ça me semble...
Oui, c'est une autre vie.
Oh là là, ça me semble il y a si longtemps, alors que je suis pas très vieille. Ça serait vraiment vexant pour tout le monde que je me qualifie de vieille. Non, ça fait
Notamment
longtemps.
Notamment pour moi.
Non, c'est ça, déjà, un sur
déjà.
Un. Oui, alors la publicité, il y avait déjà cet amour des mots et du sens de la formule. Voilà, je vais utiliser le terme très désuet de slogan.
Oui.
Parce qu'on dit signature en publicité maintenant, en agence.
Ah, on dit ça maintenant ?
On dit une signature, ouais.
Ok.
mais je pense que slogan, ça parle plus à tout le monde. Donc il y avait déjà un peu l'amour de la punchline, et j'aimais en faire et j'aimais en entendre.
Okay.
Ça, je suis toujours très admirative et j'ai vraiment le respect du bon mot et du mic drop, quoi.
Est-ce que petite, t'étais un peu fascinée par les pubs justement que tu voyais à la télé? Est-ce que ça t'inspirait un peu? T'étais intéressée par le côté marketing, genre de choses?
Ouais. J'avais pas forcément envie de faire de la pub, mais tu sais, je regardais dimanche, il y avait une émission sur M6 qui s'appelait Culture Pub,
classique.
À l'époque, et je me disais, waouh, c'est super. En fait, déjà, je trouvais ça fascinant d'avoir pensé à ça, et surtout, j'enviais terriblement les gens dont c'était le métier de soit faire des rimes, soit trouver un petit jeu de mots ou un petit truc marrant qui claque. Donc il y avait ça. Après, j'ai vite été lassée de tout l'aspect autour du travail, en fait, du travail en entreprise, qui était quand même 95%
ouais,
du job.
Sûr.
Donc comment on en vient à l'humour? Écoute, je sais, en tout cas, l'humour, je sais pas. Je pense qu'il faut avoir un attrait pour ça. Tu vois, il y a plein d'humoristes qui te disent que quand ils étaient petits, ils faisaient des spectacles à leur
gens,
famille.
Oui.
Alors moi, pas du tout. Je pense que j'étais une enfant pas sinistre, mais pas la plus expansive et pas la plus joyeuse.
On va en parler, mais tu parles de ton enfance dans ce
peu,
spectacle.
Un peu plus que dans le premier, en tout cas. Et je sais pas si quelqu'un se lancerait dans le stand-up. Je pense que si t'as conscience de ce que c'est et de ce que ça demande, le stand-up, le test, la scène, ce travail de test, de recherche pour faire rire, je suis pas sûre que tu te lances, quoi.
Parce que c'est flippant, parce que c'est beaucoup de travail aussi.
Ah bah, parce que déjà, la prise de parole en public, je crois que ça doit être top 3, dans le top 3 des phobies mondiales de tout le monde. Bon, après ça, t'y arrives ou t'y arrives pas, parce que le truc qu'on te dit le plus, je pense, quand tu es humoriste, c'est je sais pas comment tu fais pour retenir tout le texte et pour parler devant autant de gens.
Et puis la peur du bide aussi, c'est quand même quelque chose qui est terrifiant pour tout le monde. Ça peut être
une
humiliation. Ouais.
Et c'est toujours la même petite sueur froide dans le dos quand ça arrive, parce que ça arrive toujours, c'est ça qui est fou. Le stand-up est quand même la... C'est pour ça que j'aime cette discipline, c'est que qui que tu sois, ça te remettra toujours à ta place. Parce que le public est un animal terriblement sincère dans ses réactions.
Et comment, toi, du coup, tu t'orientes vers ça?
Alors moi, c'est un petit peu, mais comme je pense plein de gens, c'est un petit peu par accident. Il y a une reconversion pour être vraiment comédienne au Conservatoire de Versailles, tout à fait. Mais encore une fois, je sens que c'est plus moi, mais je suis pas encore à l'exact bon endroit de ma vie. C'est encore un peu trop cortiqué, c'est encore un peu trop ampoulé. Alors c'est très, tu vois, très texte classique. Donc j'aime bien, mais j'aime bien jouer les bonnes de Molière. Tu vois, j'aime bien répéter ça. J'aime bien quand il y a un peu de blague, et puis j'aime bien surtout déclencher le rire. Avoir cette espèce de truc très viscéral et très immédiat dans les yeux des gens, quoi. Et puis le milieu me saoule. Le milieu du théâtre, le milieu du cinéma me fait du mal. Je passe un peu des castings. Mais ça, les castings, honnêtement, hein, moi, les gens qui sont que comédiens, c'est un truc que j'admire parce que moi, ça m'a rendu aigrie en minute 1.
Pourquoi ça te fait du mal? Parce que c'est dur, parce qu'il y a peu de place, parce qu'il y a des refus.
Ouais, et parce que, en tout cas, moi, c'est très personnel, mais je crois que je peux pas vivre d'un métier où tout dépend de la validation d'un tierce. Qui est une personne subjective, et ça va souvent, quand t'es une femme, en tout cas à l'époque, ça va déjà, dans un premier temps, être sur ton physique, et sur ce que tu dégages. Sauf que moi, j'avais 24-25 ans, c'est l'époque où ça va quand même mieux qu'à 18.
On le comprend dans le spectacle, encore une fois.
Mais tu sais pas encore où situe ton charisme, donc t'as tendance à tirer un peu à côté. Quand t'essayes de montrer des choses de toi, tu montres pas forcément le bon truc, et c'est pas encore... t'as pas encore poli, c'est pas encore très affiné. Donc moi, je crois que je tombais à côté pas mal de fois. Et puis un jour, une amie qui s'appelle Elsa, et que je remercie tous les jours, m'a emmenée voir une scène ouverte de stand-up qui s'appelait Le Dimanche Marrant à la Brasserie Barbès à l'époque.
Ah, je me souviens très bien de ça, j'y étais allée une fois.
Présentée par Louis Dubourg.
Ah, il y avait lui, il y avait quelqu'un qui s'appelait Guilhem Malifaine,
oui,
si j'ai pas de bêtises.
Oui, tout à fait,
aussi.
Exactement.
Ouais, j'avais vu une session là-bas.
Et ça date un peu, je pense que ça...
Vers 2015-14, quelque chose comme ça, ouais.
Ça s'approche dangereusement d'avoir 10 ans.
Oui, j'en ai bien peur.
Et j'ai trouvé ça fou. Alors déjà, moi, j'ai passé une très bonne soirée, parce que je me rappelle, je sais plus exactement, mais Louis avait fait un passage, il y avait Marina Rollman, il y avait Tania Dutel. Enfin, en tout cas, en termes de niveau, j'en avais vraiment, en plus, pris plein la tronche, quoi. Le niveau était assez haut. Et je me disais, waouh, ouais, c'est des gens qui ont mon âge, il n'y en a pas un qui se ressemble. Et puis, il y avait tout cet aspect de tests, il y a tout cet aspect qui était pas sûr, ils avaient leur téléphone ou leur carnet sur leur tabouret, j'étais là, mais c'est dingue, j'ai l'impression d'être dans un labo, quoi. Et d'assister à un truc qui marche, et d'être la première à le voir, et puis on parle avec Louis à la fin, là, sur la petite terrasse, et il me dit, mais tu sais, nous on fait des auditions ouvertes, faut que tu viennes avec deux personnes, à l'époque ça se faisait comme ça, et si t'as un truc, bah inscris-toi pour, en juillet, il y a de la place, quoi. Et je lui dis, bah allez, d'accord.
Mais t'avais pas de texte,
j'avais
rien.
Pas de texte, mais j'avais rien. Et puis j'avais que mes yeux pour pleurer parce que j'ai dit oui vite, j'ai regretté immédiatement. Ah, parce qu'il y avait un mois et demi, je crois, qui séparait la proposition de la scène. Et je pense que ça n'a été que stress et nuit blanche et qu'est-ce que je vais raconter. Et puis après, je me suis mise sur une feuille et honnêtement, les premiers textes sont venus assez vite.
Ok.
Voilà. Il n'était pas marrant, hein. Attention.
Le texte est venu.
Attention, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, c'était dramatique. Ouais. Enfin, en fait, c'était comme une longue chronique.
Oui.
C'était une espèce de... Je sais pas, j'ai...
Mais est-ce que t'as eu des rires?
Ouais, après j'avais vraiment ramené 15 personnes, donc oui, j'ai eu des rires. Et puis c'est surtout que la première scène, faut la voir un peu comme... Faut quand même garder de la tendresse pour ce moment-là, je pense.
Ouais.
Parce que même si tu commences à 40 ans, t'es un bébé.
Bien sûr. Est-ce que t'avais des influences... En préparant l'interview, je me suis demandé, est-ce que t'avais des influences plutôt françaises, plutôt américaines? J'ai pas vraiment trouvé la réponse d'ailleurs, donc peut-être que...
C'est parce que j'avais pas vraiment d'influence.
Okay.
Non, franchement, 100% française, j'ai vraiment beaucoup regardé Gad Elmaleh, j'ai beaucoup regardé Florence Foresti quand même, et surtout moi j'avais beaucoup d'influences de choses de la télé que moi, du coup, comme j'étais plus jeune, je regardais sur YouTube, mais j'ai beaucoup regardé Les Inconnus, Les Nuls et KDO.
Okay.
Beaucoup, beaucoup KD Olivier. Et sans pour autant que ça m'ait influencé, parce que j'ai pas l'impression de restituer un humour absurde.
Oui, qui était même Les Nuls, qui étaient assez éloignés de ce que tu fais, en fait.
Et tu vois, hier, j'ai vu Mac Walter sur Prime Video, parce que t'as reçu Simon Astier, là.
Tout à fait.
Et moi, quand je vois le film, vois vraiment l'influence.
Oui, ils le disent, d'ailleurs.
Ouais, c'est clair. Et je trouve ça super que ça soit hyper assumé, parce que ça vient toujours de quelque part, quand tu crées quelque chose. Mais moi, non. Et alors, influence américaine, pas du tout. C'est vraiment un truc que j'ai découvert en commençant le stand-up, en discutant, en conversant avec d'autres humoristes qui étaient très puristes, eux pour le coup, de Louis C.K., de Dave Chappelle, de Sarah Silverman. Et du coup, j'ai regardé tous ces gens-là après, mais limite comme pour faire mes devoirs.
Ok.
Parce que j'étais aspirante stand-upeuse, donc je me suis dit, attends,
sont les boss, donc je vais y aller.
Puis limite, pas le droit de mettre un pied dans un comedy club sans avoir la ref. Je me sentais franchement, je me sentais con au début.
Mais je trouve que c'est assez récent parce que moi, quand j'étais jeune, je m'intéressais à ça, mais on n'avait même pas accès en fait aux humoristes américains. Non. Ils existaient bien sûr, mais il fallait vraiment être quelqu'un de très très digueur pour avoir, pour connaître Richard Pryor ou à l'époque. Ouais, bien sûr.
Et puis qui connaît encore je veux dire, à part même, je pense que là, si on fait un tour de la maison de la radio, Richard Pryor, c'est niche, tu vois.
Bien sûr.
Et puis c'est venu avec les plateformes.
Complètement.
Là, maintenant, sur les plateformes, il y a tout. Il y a peut-être trop, parce que du coup, là, j'ai un espèce de truc. J'ai accepté récemment que je rattraperai pas tout, quoi.
C'est impossible. Je te propose qu'on écoute un morceau.
Avec plaisir.
On va s'écouter un morceau qui réunit deux voix singulières de la nouvelle pop française. D'un côté, Théodora, qui impose peu à peu, tu l'aimes bien,
ma vie, sans exagération.
Qui impose son univers éclectique et sensible, et de l'autre, l'incontournable Juliette Armanet. Ensemble, elle signe Les Oiseaux Rares, une chanson aérienne et délicate présente sur l'incroyable réédition de Théodora, Méga BBL.
Dis-moi ce que tu fais quand tu t'ennuies, dis-moi ce que tu. Dis-moi ce que tu fais quand tombe la nuit, dis-moi ce que tu.
Dis-le, dis-le, oui. Je n'ai qu'une seule vérité. Des mensonges, j'en ai déjà 10. Déjà 10. Si c'est non ou oui, il n'y a qu'une seule vérité. Je ne ferai plus de ce
prix. J'en ai perdu mes mots. J'en ai perdu mes mots.
J'ai attendu. J'ai même fait.
Comme serpent qui n'a jamais ému, ce nouveau toi je l'ai jamais eu.
Dis-moi tout ce que t'as jamais dit, oh. Dis-moi ta vie, dis-moi ta vie.
Dis-moi ce que tu fais quand tu t'ennuies, dis-moi ce que tu.
Dis-le, dis-le, oui. Je me perds dans tes pensées, y'a plus de branches pour mon.
J'en ai perdu.
Les Oiseaux Rares, Théodora, avec Juliette Armanet.
France Inter. Mehdi Maizi, à la régulière.
Et ce soir, nous sommes avec Morgane Cadignan, qui, en ce moment, tourne avec le spectacle La Nuit, je mens. Et, comme son nom l'indique, il y est beaucoup question de mensonges.
Oui.
Et, non, mais c'est intéressant, parce que t'as tout un... Tu parles pas que de ça, évidemment, mais c'est quand même le fil conducteur, c'est dans le titre, oui. Sur... Tu développes presque un parti pris sur le fait que c'est OK de mentir, en fait. C'est même nécessaire, en fait. C'est plus ça, plus qu'OK. J'ai l'impression que c'est nécessaire. Parfois, ça te permet de te sortir de situation. C'est quelque chose que tu revendiques, en tout cas.
Alors, j'en fais pas la promotion. Et l'autre côté, alors, je suis pas garante d'une quelconque morale. Donc, je ne dis pas que c'est OK, mais en tout cas, je dis que c'est. J'ai l'impression qu'on ment tous. Moi, je voulais pas faire de grands essais philosophiques sur le mensonge, si c'est bien ou mal, où est-ce que moi je me positionne, la place du mensonge dans la société. Ça me faisait juste marrer de mettre le doigt sur ce truc quasi sans faire exprès, parce que j'avais pas prévu d'écrire un spectacle là-dessus. Mais je me suis dit, en écrivant, j'écrivais plein de petits blogs de 5 minutes et tout, et je me suis dit, ah tiens, il y a toujours ce dénominateur commun du mensonge, que je parle de l'enfance, de l'école, de relations amoureuses, il y a toujours ce truc, donc ça m'a fait me rendre compte qu'on le fait tous un peu. Et c'est surtout, c'est parti d'une chronique que j'avais faite sur France Inter, ouais. Mais il y a au moins 3 ou 4 ans, qui s'appelait Une journée sans filtre, et j'essayais de retracer ce que ça serait 24 heures de la journée.
Quelqu'un qui ne ment pas.
Qui ne ment pas. Mais du matin où tu te
pardon,
couches...
c'est un film ça, je viens de repenser. Menteur, c'est... menteur. Avec
exactement.
Jim Carrey. Je viens de repenser à un film que j'adorais
puis
quand j'étais petit.
Pas un petit film, quoi.
Enfin, non, un film qui a marché.
Quand même pas loin d'être culturel.
Tout vois. À fait, ouais.
Et en fait, t'as plus de proches, je pense, à 14h30.
C'est, ouais.
Après, tu vois, c'est marrant parce que je suis en train de me rendre compte en promo que donc, le titre, La nuit, je mens, et le titre est peut-être plus fort. Je crois que le titre, alors c'est pas une erreur parce que j'assume ce titre et que je voulais un jour.
Qui est évidemment une référence à un morceau qu'on va écouter après, je te spoil.
Ah, génial. Bah, je suis toujours ravie de l'écouter, donc d'Ala Bachung. Mais je me suis dit, ouais, la nuit, je mens. Évidemment que je l'appelle comme ça, ça parle du mensonge et de la nuit. En fait, j'avais pas le choix. Donc zéro regret, mais le titre est très fort parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient s'attendre à ce que ça parle énormément de mensonges. Non, tu l'as dit, oui, c'est un fil conducteur pour amener à plein de sujets. Donc voilà, vous pouvez venir, ne vous inquiétez pas, c'est pas. Si vous avez le mensonge en aversion, en horreur, ce n'est pas non, une heure de promo sur le mensonge.
Et puis effectivement, t'es pas en train de dire c'est cool de mentir, bien sûr, non. Mais c'est juste que ça fait partie de la vie de tout le monde.
C'est
toi, ça fait partie de la tienne. Et je pense que quand on regarde le spectacle, on se rend compte aussi à quel point ça fait partie de la nôtre, ou même qu'on parfois, ce serait mieux de mentir que de dire la vérité.
Mais
c'est
exactement.
Aussi un peu ça que tu racontes. Il y a des situations où c'est mieux de mentir, quoi.
Bah, il y a des situations. Oui, par exemple, enfin, je sais pas, l'exemple que je prends tout le temps, c'est avec une amie qui, enfin, c'est très cliché, mais qui vient de se faire quitter, qui se fait une frange, une coupe courte qui lui va pas du tout. Est-ce que c'est mieux de lui dire, Annabelle, c'est dégueulasse ce que tu
les
nous
prénoms
proposes
ont été changés ou pas
ouais, non, c'est dégueulasse ce que tu nous proposes physiquement, ou savoir que ton ami n'a pas les outils ouais. maintenant émotionnels pour recevoir la vérité, et du coup esquiver un peu. Enfin, je pense qu'il y a des moments où aimer et prendre soin des autres, de l'autre, parfois dans un couple, c'est pas de dire tout de suite le truc hyper frontal. C'est un truc un peu télé-réalité de dire ah mais moi je dis oui. tout le temps ce que je pense. Attention,
je suis
à pas prendre l'accent marseillais.
Ouais.
Mais moi je suis sans filtre. Ouais, mais non, mais parfois, on n'est pas obligé de dire tout haut, la franchise absolue n'est pas toujours la solution. Et puis surtout, on est tous quand même profondément lâches, quoi. Donc c'est bien.
Ça, c'est un moment très intéressant, je trouve, dans le spectacle, où tu parles de la lâcheté.
Ouais.
Tu dis qu'effectivement, souvent on dit que les hommes sont ouais. lâches, et tu dis, oui, clairement, c'est le cas. Tu
ouais.
ne vas pas contre
non.
cette affirmation-là. Mais tu dis aussi qu'il y a une forme de lâcheté chez toi ou chez les femmes que tu as pu aussi observer. C'est que, effectivement, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, en fait,
mais
cette lâcheté.
Mais l'humain est lâche. Ouais. L'humain est lâche, sinon on serait en train de se bouffer et ça serait la guerre. Enfin, c'est déjà pas mal la guerre, mais ça serait encore plus la guerre. Non, mais je pense que l'humain est lâche parce qu'il n'a pas le choix et parce que surtout on vit dans une. On n'est pas. Je pense que. Enfin, après là, c'est parce que moi je lis des trucs, les trucs sapiens, philo et tout, mais on n'est pas fait pour vivre avec autant de gens autour de nous, dans des villes, avec autant de monde, à faire des métiers. À la base, notre cerveau, il n'est pas câblé, il n'est pas cellulé pour ça, tu vois. Donc évidemment qu'on trouve des moyens. Un peu, mais c'est quasi instinctif, tu vois, c'est quasi animal pour t'en sortir et pas mourir ou pas vexer ou pas finir dans des situations où toi-même tu vas te faire bouffer. Moi, je mens souvent, c'est pas par joie, j'y trouve aucun plaisir, c'est souvent pour me sortir d'un truc.
Est-ce que t'as menti aujourd'hui ou pas?
Oui, ouais. Mais ouais, parce que je suis rentrée dans une boutique et la vendeuse, elle m'a montré un truc beaucoup trop cher. Après, c'est une boutique dans mon quartier, ça fait des mois que je passe devant. Il y a des petits bijoux, machin. Et puis, j'avais pas vu qu'il n'y avait pas de virgule, tu vois. Donc, je croyais que c'était 99 euros, c'était 999. Une bague, tu vois. Et tu sais, elle me la montre, elle la sort, elle prend du temps de la sortir de la vitrine. Et je dis, je reviens.
Tu vas pas revenir.
J'ai dit, je vais déménager s'il faut pour ne plus jamais repasser devant.
Ça c'est drôle. Sur
et ça,
aussi,
c'est
pardon.
Un tout petit truc.
Mais ça, sur la lâcheté, t'as ce moment très drôle aussi, sans tout spoiler, mais où il y a cette relation avec l'épicier.
Ouais.
Où, tu vois, il te prend pour une jeune femme algérienne et potentiellement
tout à fait,
musulmane.
Ouais, bah oui, je parle
et voilà.
Ouais.
Et donc, à ce moment-là où tu ne le contredis pas,
non.
un peu par lâcheté, ou peut-être par flemme. Et du coup, il y a cette relation qui s'installe entre vous, qui est une relation un peu fausse, quoi. Tu vois. Mais c'est drôle.
Après, il y a des très belles et très longues relations qui ont démarré sur des bases pas solides ou sur des faux trucs. Il y a des trucs super qui naissent des quiproquos.
C'est vrai.
L'important, c'est ce que t'en fais. Et alors, attention, après une relation ou quelque chose qui naît sur un mensonge, si t'es enfoncé trop loin dedans, faut être sûr que tu vas le tenir sur 20 ans, ton truc.
Voire plus.
Donc attention à faire quand même, à désamorcer assez tôt dans la relation avec quelqu'un, si ça doit durer. Mais en fait, c'est pas grave.
Très bien. En tout cas, on est avec Morgane Cadignan pour parler de La nuit, je mens. Alors, pardon. Comment ? Non ? Il y a, tout va bien ?
Je croyais que tu avais lancé une musique.
Non, j'ai juste lancé mon petit...
Parce on n'est pas en direct, quelle
j'adore
joie.
Tout l'habillage de cette émission.
C'est
générique,
vrai.
Générique, donc voilà.
Ta
j'aime,
casquette,
donc,
tout est bien.
C'est très gentil. Alors, on l'a dit, on t'a, beaucoup de gens t'ont sûrement découvert à la radio. En plus, toi, t'étais en quotidienne, ouais. Donc c'était énormément de travail, ouais. En tout cas un rythme très particulier. Comment on passe de la chronique au long format ? Et c'est marrant parce que je posais la question à Simon Assis de comment on passe de la série au film. Il me disait à quel point c'était un travail différent. Est-ce que c'est la même chose pour toi quand on passe vraiment du... Alors c'est ton deuxième spectacle, mais quand on passe de la chronique au spectacle ?
Alors moi, je faisais déjà de la scène avant de faire de la chronique, ouais. Mais c'est vrai que...
Mais c'était tellement un rythme important, ouais. C'est peut-être devenu ta vie, quoi, au bout d'un moment.
En fait, à un moment, je suis quand même devenue plus chroniqueuse que stand-upeuse, parce qu'en plus, j'ai commencé à la radio en septembre 2020, où les théâtres post-Covid n'étaient pas encore ouverts, donc la radio a pris énormément de place, et cette manière d'écrire a pris énormément de place, et est devenue ma manière d'écrire. Et je m'en suis rendu compte après, où j'avais des choses sur scène, où quand même le stand-up, t'es censé être allé vite à la blague. Pas que c'est bien quand c'est pas non plus trop verbeux et que t'as pas une amorce de blague, donc le début, ce qui t'amène à ta punchline qui dure un quart d'heure, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu calmer puis arrêter les chroniques, parce que je me rendais compte que je devenais incapable d'écrire pour le stand-up, parce que j'arrivais pas à être à l'os, j'arrivais pas à arriver à l'essence. C'était comme une chronique, c'était, je prenais des chemins, des tournées que j'étais un peu la seule à comprendre, du coup, et ça marchait pas. Et j'ai mis beaucoup de temps et ça m'a demandé quand même pas mal de travail. De, comme tu dis, revenir au long format, donc ça c'est pour le côté négatif. Et après, plus positivement, c'est super parce que t'as le temps par rapport à une chronique de 3 minutes, t'as
bien
ton
sûr.
Spectacle d'une heure, tu prends les chemins que tu veux. L'important, c'est de pas perdre les gens, donc toujours, tu vois, c'est vraiment je sais pas comment je pourrais dire, mais pour moi, être sur scène, c'est vraiment, t'es un conducteur de bus scolaire, quoi, tu sais, celui des Simpsons, et tu regardes quand même très souvent dans le rétro si tout le monde est bien en train de suivre. Ouais, t'es un petit peu un guide de haute montagne, donc tu peux prendre les chemins que tu veux parce que les gens, ils sont là, ils te font confiance, ils sont venus dans ta salle. Mais t'as le temps, tu prends le chemin que tu veux, mais attention de pas se perdre quand même. Et j'avais un peu ce truc de la chronique, et tu vois, je suis en train de me perdre dans ma phrase, donc c'est fou.
Mais
à quel point en parlant.
Est-ce que ce micro te manque ou c'est derrière toi ?
L'équipe me manque.
Ouais, les gens.
L'équipe, Nagui, Leïla, Daniel, tous les autres chroniqueurs. Franchement, on rigolait bien. C'était, honnêtement, j'en garde un souvenir très, 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 très joyeux. Mais je sais qu'ils sont encore très joyeux sans moi. Donc, mais tu vois, j'arrive plus à l'écouter parce que j'ai le FOMO.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah, c'est marrant, ça.
J'ai le FOMO. Mais
c'est
de manière...
C'est un peu comme un groupe de potes qui vit sans toi, quoi.
Qui continue la colo, quoi. Tu vois, toi, on t'a laissé sur lequel le train était en tant que train qui... où ça continue de chanter dedans, quoi. Donc, ça me manque. Après, ce qui me manque... Là, je suis quand même très, très contente de... très honnêtement, de revenir de tourner le dimanche midi crevé, et de pas avoir 5 chroniques à écrire dans le train.
Oui,
quoi.
J'imagine.
Je suis contente que mon cerveau se soit un peu détendu et d'avoir retrouvé la spontanéité de puis de choisir mes sujets, parce que quand t'es en chronique tous les jours ou même toutes les semaines, dès qu'il se passe un truc dans ta vie, tu te dis, attends, est-ce que c'est pas une manière pour écrire un truc ?
Oui, ça modifie complètement même ta manière de réfléchir.
Ouais. Et après, malheureusement, je crois qu'on a quand même maintenant, j'écoutais Rosa Burstein dans un podcast en venant qui dit ça, mais qui dit que maintenant, malheureusement, ça, on l'a quand même un peu pour les vidéos Instagram. Tu vois, qu'on doit quand même essayer de nourrir un truc. Donc, ce truc que tu perds en chronique de « Oh là là, le moindre truc qui m'arrive, je vais essayer d'en faire un truc », tu le retrouves un peu dans l'obligation de contenu. Mais moi, c'est vrai qu'à un moment, la quotidienne, c'était devenu... Je me vois, j'avais mon ordi dans les commissariats, dans les salles d'attente des urgences. Dès que je m'ouvrais un truc, je disais « Allez, chronique !» Et en du sang sur le clavier, ça bête de sujet, ma main détachée du poignet.
on en parlait un petit peu hors antenne. Le stand-up, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement pratiqué. Il y a beaucoup de stand-upers. Comment tu vis ça, toi, de l'intérieur ? Parce que, est-ce qu'il y a une forme de compétition féroce ? Il y a de la place pour tout le monde ? Est-ce que le fait qu'il y ait autant de gens qui en face, ça démystifie un peu la profession ? Comment tu vois un peu l'état du stand-up aujourd'hui ?
Alors, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Non, mais...
non, mais ça... je pensais que tu allais me faire une réponse super longue de mon dire oui.
Non, mais ça, je pense dans tous les domaines. Mais en fait, il y a de la place pour tout le monde, non. Mais à la fois, encore une fois, le stand-up est un endroit où aucune place n'est acquise. Et c'est très mouvant. Ouais. Tout le temps, c'est vraiment un métier et un milieu qui change sous nos pieds à mesure qu'on en parle. Il y a vraiment des nouveaux gens tous les jours. Mais il y en a autant qui vont faire autre chose, qui font un spectacle et qui se tournent vers le cinéma ou qui arrêtent ou qui partent bien à sûr. La campagne et qui changent de vie. Donc ça, ça me fait pas trop peur. Ce qui fait peur pour nous-mêmes quand on parle avec les stand-uppers, c'est est-ce que nous, on va réussir à tenir sur la longueur et à assurer cette course de fond qui fait que oui, un premier spectacle, bon, c'est un coup de chance. Un deuxième, c'est une confirmation. Un troisième, qu'est-ce que tu racontes ? C'est comme l'écrivain, quoi.
Ouais, ou l'artiste.
Ou n'importe ouais, quoi de quand tu sors un projet, ouais. N'importe quel domaine. Après, l'état du stand-up, je suis même pas encore assez stand-upeuse, assez confirmée pour le dire tellement. C'est un processus de travail long pour devenir bon. Et je pense qu'un très bon stand-upper ne dit même pas de lui-même qu'il est très bon, parce que c'est quand même le doute qui te fait continuer d'aller tester des choses. Ouais, mais il y a du monde, ouais.
On parlait des réseaux. Est-ce que c'est pas... J'en parlais une fois avec quelqu'un que tu connais bien, qui faisait ta première partie d'ailleurs sur la captation que j'ai vue, c'est Gigi Pop, qu'on avait reçu ici, enfin dans un tas de pilote de l'émission, c'est lui qui était venu, et que je connais bien, et qui me disait aussi que c'était compliqué parce qu'il y avait cette histoire d'aujourd'hui, la scène et les réseaux. Donc, dans quelle mesure on se sent aussi obligé d'alimenter les réseaux pour exister quelque part ? Parce que tu sais, il y a 30 ans, les humoristes, ils partaient en spectacle, en tournée, des fois ils faisaient un petit film, et puis ils n'avaient pas, mais c'était un autre monde, hein, évidemment. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette pression-là de « bon, mais en fait, il ne faut pas qu'on m'oublie, il faut que j'existe, il faut que j'ai plus de followers que le mois dernier ?» Enfin, c'est aussi une pression qui n'est pas uniquement inhérente aux stand-uppers, mais en tout cas qui existe pour vous.
Bah, honnêtement, je pense que tu poses la question à une des personnes qui, je sais pas si c'est moi qui le vis le plus mal, mais en tout cas, c'est pas tous les jours une partie de plaisir de se rendre compte de ça. Et je sais que je suis pas la seule. Après, il y en a qui souffrent plus ou moins à le faire. Mais je crois très honnêtement, j'ai envie de faire une réponse positive, mais je pense que quand tu parles avec des humoristes, honnêtement, on est plus à souffrir de devoir le faire que de le faire. Et à la fois du côté des productions, du public, de tout le monde, quoi, de nous-mêmes, tout le monde attend ça. Donc on sait qu'on a un truc qui fait souffrir un peu tout le monde parce qu'il faut le faire, mais à la fois on le fait puisque faut vendre des billets. Donc en fait, ce qui est dur, c'est que faut faire un autre métier que celui que tu fais. Mais celui que tu fais est déjà tellement dur et demande un endroit d'énergie et de nudité et de travail tellement fort que tu te dis mais comment je vais réussir à faire un autre métier qui est créateur de contenu en fait.
Exactement.
Et je crois que la seule solution c'est d'essayer de faire un truc qui te ressemble, de sortir des trucs sur Instagram qui te ressemblent, qui te trahissent pas trop ce que t'as envie d'écrire et ce que t'as envie de montrer, d'essayer de faire des trucs avec des potes, de s'inviter les uns les autres dans nos formats. Moi j'essaye de le faire et c'est le seul endroit où je prends du plaisir et d'y trouver un peu de la joie. Parce que sinon, c'est horrible. Si tu commences à te forcer à faire du contenu, je pense que personne ne peut survivre à ça.
Il y a quelque chose que tu dis dans le spectacle, où, quand tu arrives, et moi que j'ai apprécié, je le reconnais, c'est que tu t'adresses au premier rang. Mmh. Et donc, aujourd'hui, notamment sur les réseaux, il y a toute cette mode de des vidéos où on parle, où on vanne les gens du premier rang, du deuxième rang. Et toi, on a l'impression que tu vas les vanner, puis non, moi je ne vais pas faire ça, je ne sais pas le faire, et je ne vais pas le faire. Et moi, j'ai trouvé ça un peu salvateur, puisque j'en ai... c'est purement personnel, un petit peu marre de voir tout le temps des gens qui se font vanner. Alors je crois que les gens aussi parfois sont demandeurs de ça, mais il y a un peu ce truc-là maintenant qui est devenu obligatoire presque dans cette espèce d'interaction avec le public. Et j'ai bien aimé personnellement le fait que tu t'en affranchisses en fait, alors, et que tu fasses autre chose.
Merci déjà. Écoute, enfin, c'est intéressant. Je pense que les gens qui sont demandeurs de ça, ils savent très bien qui aller voir pour avoir ça. Moi, je voudrais épargner, déjà parce que je sais pas le faire, donc ça m'arrange, mais justement, les gens qui veulent pas ça, parce que je pense qu'il y a plus de gens qui ont envie vraiment, qui sont venus pour se divertir et qui ont envie qu'on leur foute la paix.
Ouais.
Ils sont vraiment en majorité, je pense. Moi, j'aime pas faire des interactions. S'il y en a une qui arrive, je la fais avec plaisir, mais en fait, c'est facile de dire j'aime pas, c'est une voix de noblesse pour dire que je suis pas très forte.
Ok, très bien.
Ça. Mais si un truc arrive, je le fais, mais bon, je trouve que c'est cool aussi de présenter de présenter du texte, quoi. Ouais. Mais il y en a qui sont très forts. Moi, je respecte vraiment les humoristes qui arrivent à retourner une salle basée sur rien, quoi. Moi, je me cache derrière mon texte.
Évidemment, c'est juste ce qui m'embête un peu, c'est le côté systématique, mais c'est purement personnel.
Et les gens ont une image de ça, mais vraiment, je voudrais dire aux gens que vraiment, on croit que le stand-up, c'est ça. Moi, j'ai plein de potes qui font pas ce métier et qui me disent, ouais, mais bon, est-ce que toi, t'interagis ? C'est fou que ça soit le premier truc dont on nous parle. Non, c'est pas ça. Et vraiment, aller voir des humoristes parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de gens qui n'en font pas. C'est juste qu'on les voit pas parce qu'ils ne postent pas.
Exactement. Alors on va écouter évidemment La Nuit Je Mens d'Alain Bachoum.
Avec plaisir.
Est-ce que tu veux présenter ce morceau, si tant est qu'il faille encore le présenter, vu que c'est le titre de ton spectacle ?
Non, je pense qu'il s'écoute, mais pas qu'une fois.
On va l'écouter qu'une fois aujourd'hui. La Nuit Je Mens d'Alain Bachoum.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique jardin fort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore.
Alain Bachung, La nuit je mens, c'est ce qu'on appelle un classique.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Nous sommes avec Morgane Cadignan. Morgane, je me permets un petit récap des sorties musicales de ces derniers jours.
S'il te plaît.
J'ai envie de parler de quelques projets qui m'ont tapé dans l'œil.
Allez.
Peut-être que tu les as écoutés, peut-être pas. Et si je peux te faire découvrir des choses, ce sera avec
s'il
plaisir.
Te plaît.
On commence en France avec un rappeur Infinite qui vient de sortir son nouvel EP Above the Dream. Le titre et le visuel sont un clin d'œil évident au film culte Above the Rim où l'on retrouvait Tupac dans un rôle marquant. Infinite, c'est l'un des rappeurs les plus respectés de la scène niçoise, connu pour son style laid-back, ses punchlines détachées et cette manière de transformer la nonchalance en identité artistique. Sur Above the Dream, il continue de creuser son sillon entre ego trip ironique et observation du quotidien. C'est un projet qui respire la liberté sans chercher à coller à des formats, assez inspiré par l'univers du Californien Larry June.
Bonne zep, collé au bec, grosse chienne, collé au bec. Dans le miroir, Vince avec le flingue qu'il a volé au deck. Ils veulent tes crashs, je te les écrase comme des oreos secs. Je fais pas de rodé au blèche, bientôt je retourne rodé au plaid. Et là tu veux te frotter au best. Moi je veux tout grind pour moi tout seul, c'est mon côté au best. Ou peut-être mon côté on baise, en tout cas pas de zigzag quand je vais tout droit vers le top. fait un pacte avec le bleu Jalat pourra peut-être me stop. On est sur le drap.
Deuxième sortie, un peu la même ambiance puisqu'on va direction Los Angeles avec une légende vivante. Ice Cube revient avec un nouvel album intitulé Man Up. Il faut se souvenir qu'on parle bien sûr d'un des fondateurs de N.W.A, un rappeur qui a marqué l'histoire du hip-hop depuis la fin des années 80. Entre temps, il est devenu acteur, producteur, icône pop culture et il continue en 2025 à sortir des albums. Man Up, c'est du Ice Cube pur jus, des instrus qui rappellent la West Coast classique, des textes engagés, une énergie intacte. À plus de 50 ans, il garde cette colère, cette posture d'OG, d'ancien, qui regarde le monde d'aujourd'hui. Ce qui frappe, c'est que le disque refuse la nostalgie. Il parle du présent, des tensions sociales aux États-Unis et de son rôle de vétéran dans le rap. You knew about it, but what you gonna do about it? You niggas shout it, but what you gonna do about it? You ain't about it, all you do is talk about it. You niggas pout it, but what you gonna do about it? Nothing, yeah, nigga just cussing, talking about bussing. We know he bluffing, mad at the world, pissed off at his girl. All you do is fester and let the shit swirl. Pout first. Et on termine avec une sortie très différente, mais qui mérite l'attention, le nouvel album de Parcells intitulé Loved. Les Australiens sont connus pour leur pop funk élégante, un peu rétro, mais toujours hyper moderne dans la production. Avec Loved, ils continuent de tisser ce mélange entre groove, harmonie vocale travaillée et une ambiance qui peut plaire autant aux amateurs de pop qu'aux fans de funk ou de disco. Le groupe sera d'ailleurs avec nous vendredi dans cette émission et on aura l'occasion de revenir en détail sur ce disque. Voilà pour Parcells et nous sommes avec Morgane Cadignan dans La Régulière. Morgane, nouveau spectacle, donc La Nuit Je Mens, ouais. En tournée actuellement.
Ouais.
Il y a plusieurs sujets que tu abordes et notamment vers la fin du spectacle, tu parles aussi beaucoup de ton rapport à tes parents.
Ouais.
Ton rapport à ta maman,
ouais.
L'amour qui vous lie, mais aussi la manière dont parfois les relations deviennent compliquées.
L'agacement qui nous lie.
Parfois, mais je crois que c'est inhérent à toutes les relations entre enfants et parents. Est-ce que la vieillesse, ça te fait peur? Et j'ai la réponse, tu le dis, t'as l'air d'être assez terrifié par ça quand même.
Ouais, c'est terrible parce que c'est injuste, je suis même pas terrifié par la mort.
Bah, oui, c'est le fait de vieillir, j'ai l'impression.
Ouais. C'est le fait de vieillir, c'est le fait d'être... Alors moi, j'aime bien faire du sport, je suis un... vite un lion en cage dans un appartement, j'aime bien me dépenser, enfin je suis vraiment un labrador quoi, faut m'emmener courir sur la plage une okay. fois par jour, sinon ça se passe quand même assez mal.
Compliqué à Paris.
Ouais, compliqué, mais faut que je m'ébroue quoi.
Ouais.
Du coup j'ai peur du corps qui ralentit, mais bon après peut-être que moi quand j'en parle avec ma grand-mère, c'est vrai que au moment où ça arrive, t'as quand même 40 ans de plus derrière toi et t'as commencé un peu à faire la paix vers l'idée d'une fin. Mais en tout cas, moi, à l'âge que j'ai, ça me fait peur. Et c'est surtout, après, je reste une femme née en 1990 et qui a grandi dans les années 2000. Hein, donc, je me suis pris quand même pleine balle une tonne de dictats de la jeunesse. Où tu sais, moi, quand j'avais 20 ans, t'as plein de grands principes de la chirurgie esthétique. Jamais, le Mais botox, ouais. Jamais, sont ridicules ces nanas qui veulent rester jeunes. Et après, ça, par tranche de 5 ans, ça avance, c'était là. Ouais, après, si c'est bien fait, ouais. Je vois pas le problème, quoi.
C'était qui tes modèles, peut-être féminins ou pas, d'ailleurs, quand t'étais jeune? Est-ce qu'il y avait des personnes à qui tu voulais ressembler?
Alors, ouais. Bah après, il y avait des personnes dans mes proches.
Ouais, ok.
Ouais, je crois que je voulais être comme plein de... Je voulais être Jennifer Aniston dans Friends.
Dans Friends. Ah,
bah,
tu voulais
être Rachel. Ah, ouais. Donc, je me suis vraiment foutu les cheveux sous un fer à repasser pour qu'il soit lisse. Je voulais être blonde. Mais je voulais être ce qui est un peu le pacte de l'adolescence, quoi. Tout l'inverse de ce que j'étais, je crois que ça fait. Après, Florence Foresti, quand même... j'enviais vachement son cool, quoi. Moi, je regardais... Alors oui, j'ai vu ses spectacles, mais surtout, je la regardais vachement chez Ruquier.
Oui, chez Ruquier. Ah,
c'était vraiment un truc avec ma mère. C'était
pas chroniqueuse, elle était humoriste.
Elle était humoriste, mais à l'époque, oui, on faisait quand même chroniqueuse autour de la table. Et on a tout essayé, là, à 19h, avec ma mère. C'était une religion. C'était vraiment un truc qui nous liait avec ma maman. On le regardait énormément. On regardait tous les soirs. Et c'était un peu la seule fille de la bande. Enfin, pas seulement, il y avait Isabelle Mergault, tout ça, mais en tant qu'humoriste, c'était la plus jeune. Et j'enviais son cool parce qu'elle venait avec des perruques, des trucs. Une fois sur deux, ils oubliaient le texte. Ruquier lançait pas les répliques, ils en avaient rien à foutre. J'enviais un peu. Ouais, je la trouvais vraiment détente quand moi, je me trouvais un peu. emprunté, timide et coincé dans moi-même parce que t'as 15 ans et c'est comme ça, quoi.
Est-ce que c'est la goutte?
Je sais pas si c'est la goutte, mais c'est top 3 goutte.
En plus, t'as cité Florence Foresti et Gad Elmaleh qui sont souvent vus comme les deux, en tout cas sur, on va dire, l'humour moderne, parce qu'évidemment, il y avait d'autres gens avant, souvent cités comme peut-être les deux plus importants, en tout cas, qui ont vraiment des carrières assez incroyables, quoi.
Ouais, mais qui sont, mais ce que je trouve fou, qui sont encore quand même hyper modernes, et qui sont quand même, qui sont vachement en activité, et qu'on croise, nous, ce qui est devenu aussi nos lieux de travail, quoi. Donc, c'est trop bien, c'est même pas un truc, je pense qu'il faut pas voir ces gens-là comme des monuments, parce que déjà, ils sont jeunes.
Ils sont encore là.
Et ils sont encore là, et ils nous donnent encore quelques leçons, quand même. En termes de spectacle.
Tu les croises des fois justement sur des salles, croises les Gad Elmaleh, des Florence Foresti ou d'autres.
Sur des salles, dans des soirées, et puis après tu commences à avoir des potes en commun et tout. Et puis voilà quoi. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on parle même pas forcément de stand-up ou de scène. Parce que parfois aussi, on vit de déconner quoi.
Il y a quelque chose qui est... c'est le moment aussi qui est très drôle, mais qui est aussi assez touchant, c'est quand tu parles du collège, qui est une période pour laquelle tu n'éprouves aucune nostalgie, on peut
pas
le dire.
Tant,
Et aussi, tu parles de ça, effectivement, et je pense peut-être même une manière de, t'as eu de te construire, c'est tes origines, qui sont à moitié antillaises, et tu racontes comment ça ne se voyait pas quand t'étais petite, etc.
Toujours
pas trop. Et est-ce que ça a été, justement, ça, quelque chose qui a été compliqué à négocier au début? Parce que tu disais que tu voulais ressembler à Jennifer Aniston, donc justement l'opposé de ce que tu étais a priori. Est-ce que t'as eu peut-être des problèmes d'identité quand on est plus jeune, ce qui peut arriver quand on se cherche et qu'en plus on ne ressemble pas forcément à ce qu'on est censé ressembler, etc.
Ça a créé vraiment une petite schizophrénie de communautarisme.
Ouais.
Parce qu'en plus, tu as un désir fort quand tu es adolescent d'appartenance à un groupe. Moi, il y avait une grosse communauté maghrébine dans mon collège.
Ils pensaient que t'étais avec eux.
Mais moi je pensais que j'étais avec eux. Et parfois on me disait, non Marianne, t'as pas le droit de jurer sur Dieu là. Pourquoi? Mais parce que t'es en train de manger un jambon vert. Mais parce que déjà c'était mes potes. Et en plus je ressemblais plus à leur sœur ou à leur mère que à ma propre sœur et à ma propre mère. Donc c'était marrant. Et puis c'est surtout que c'est moi, le rapport à la Guadeloupe et à la culture créole, c'est dur parce que c'est un endroit où j'allais beaucoup, en plus où je suis beaucoup beaucoup allée, la Guadeloupe, où j'ai vraiment mon père a vécu là-bas, j'ai encore toujours ma mamie là-bas, j'y vais très souvent au maximum, et il y a tout ce truc, cet héritage en toi, dans ce que t'es, dans ce que tu manges, dans ce que tu penses politiquement aussi, mais qui se voit pas. Mais même qui se voit pas, même du côté de la minorité, tu vois, où toi tu t'excuses un petit peu d'en être et de penser pareil, parce que est-ce que t'as la légitimité d'être aussi énervé? Par exemple, ça a vraiment été une question. C'est bizarre de ne pas vivre de racisme soi-même, mais de voir des gens qui te sont très très proches le vivre. Et pas très proche parce que c'est ton mec ou ta meuf, très proche parce que c'est ton père. Donc c'est vraiment ton sang qui vit le truc, mais toi non. Donc c'est très bizarre. Mais ça, c'est un truc qui est un peu passé, avec lequel j'ai quand même fait la paix, parce que en grandissant et même, disons-le, en vieillissant, là ça va mieux, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le premier spectacle, parce que j'étais là, ça se voit pas, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? En fait, il y a plein de trucs à dire.
On va écouter un autre morceau. On part maintenant du côté de Londres avec Joy Crooks, l'une des plus belles voix de la soul moderne. Elle a ce mélange rare entre élégance rétro et fraîcheur actuelle, et chaque morceau sonne comme une confession intime. Voici Somebody to You, une chanson sortie au milieu du mois d'août.
Joy Crook, Somebody to You.
Mehdi Maizi sur France Inter.
On est avec Morgane Cadignan, le spectacle La Nuit, je mens, en tournée actuellement. Et je t'avais demandé des recommandations.
Oui,
tu m'en as gentiment envoyé. Et notamment, tu m'as parlé de la chanteuse Meryl.
Ils sont pas là dans les mentions, c'est pour ça qu'ils se fâchent. C'est pour ça qu'ils se fâchent. Alors la même confiance à nobody. Trust no one, nobody. Sont plus de conseils que papa. Des hommes en mensonge.
Donc c'est un morceau qui s'appelle Nobody, extrait de l'album Caviar de Meryl. Pourquoi Meryl ?
Parce que je l'a... Alors déjà, je l'adore sans aucune raison. Et puis musicalement, alors par rapport au sujet dont on vient de parler justement, moi je trouve que c'est rare, en tout cas de manière populaire et pour le grand public, d'entendre parler créole, enfin d'entendre rapper créole.
C'est vrai. Ouais, rap, dans le rap encore plus rare. Ouais, c'est
dans
vrai,
les chansons qui moi est une langue qui me ramène, alors déjà que je comprends parfois.
J'allais te dire, est-ce que tu la parles ? Non, mais tu la comprends
je
un
la
petit peu.
Je la comprends, ouais. Après, elle va vite, donc parfois il faut quand même que j'aille lire un peu les paroles. Et puis surtout, je trouve que cette femme a une puissance, et sur scène, et même dans ses textes, et je retrouve, sans s'excuser d'être là, sans s'excuser d'être une femme, sans en faire trop, je retrouve un peu du Diams. Enfin, en tout cas, ça me fait un petit peu les mêmes sensations que quand j'écoutais Diams adolescent.
Et
quoi.
T'as écouté Diams adolescent.
Ah bah j'ai vu Diams à l'Olympia, mon pauvre.
Wow.
Non non, mais c'est fou parce que à une époque on savait pas qu'elle allait arrêter, donc là maintenant je repense à ça avec
avec émotion.
Émotion, en me disant mais j'ai eu trop de chance parce que j'aurais pu dire non, tant pis, j'irai sur le prochain album quoi.
Ouais,
et
bien sûr.
Le dernier.
Et Meryl aussi, je sais pas, je pense que tu le sais, mais je sais pas si les gens le savent, qui a aussi beaucoup écrit pour d'autres.
Oui,
elle est à l'origine
à
de quelques-uns des plus gros tubes du rap français de ces 10 dernières années. Donc elle a aussi ce talent-là, et puis là, elle le met aussi à profit pour sa carrière perso.
Puis quel
elle...
style.
Ouais, et puis sur scène, t'as raison, elle est très très forte sur scène, vrai charisme. Il y a un truc de superstar dans l'attitude.
Ouais.
Autre recommandation que tu nous as donnée, la série Ted Lasso.
Une nouvelle nous arrive depuis l'autre côté de l'Atlantique. L'AFC Richmond a annoncé le nom de son nouvel entraîneur, qui n'est autre que Théodore dit Ted Lasso.
Vous êtes un Américain qui va entraîner une équipe de football de Ligue 1, même si votre connaissance du jeu est très limitée.
Je sais que cet AFC Richmond se donnera à fond, qu'il mène ou qu'il soit mené.
Ou à égalité.
Oh, t'as vu ce gars ?
Mais je pense qu'il vient d'Angleterre.
J'ai raison.
Pays de Galles. C'est un autre pays ?
Oui et non.
Mais combien y a-t-il de pays dans ce pays ?
4. Bienvenue en Angleterre.
Ted Lasso, donc une série disponible sur Apple TV Plus, avec Jason Sudeikis dans le rôle titre, et qui est une série où donc lui c'est un Américain qui prend en charge un club de deuxième division, je crois, en Angleterre. Et pourquoi donc t'as aimé cette série ?
Alors, parce que déjà Jason Sudeikis me fait beaucoup rire, que je trouve que c'est très bien écrit. Après, c'est... Alors, c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est rempli de bons sentiments.
Oui.
C'est-à-dire que ça dégueule et ça déborde de jolies morales, d'amitié entre mecs. Vraiment, c'est un truc, on dirait parfois vraiment, t'as des fins d'épisode qui ressemblent à un film pour enfants de Noël où on se rend compte que le vrai trésor, c'est l'amitié, quoi. Mais moi, je vais chercher ça.
Ça fait du bien.
Je vais chercher ça. Moi, j'y vais pour pleurer, tu sais. Mais de la même manière où je vais sur des comptes, des comptes Instagram de monde en mariage surprise ou de soldats qui reviennent en surprise dans l'école de leurs enfants après 6 mois d'absence.
Ça,
j'y vais pour
chialer.
J'y vais pour chialer.
Est-ce qu'il y a aussi, tu sais, sur Instagram, les moments où on voit un animal et son maître qui sont pas vus depuis 10 ans et ils se retrouvent.
Écoute,
et là, c'est terrifiant. Là. C'est
tu me retrouves en boule dans mon lit, les yeux gonflés.
Mais comment faire autrement ?
Mais joyeuse. Et puis, essayer de ne pas être sur le site de la SPA pour adopter 8 chiens tout de suite. Mais non, Ted Lasso. Et puis, c'est surtout sur. Moi, j'ai appris plein de trucs du milieu du foot, qui est un milieu où, très honnêtement, c'est pas que je m'en fous, mais pas loin. Bon, après, je suis aussi proche de gens qui partagent ma vie, qui sont vraiment très aficionados de ce sport. Mais donc, ça me fait aimer. Mais ça, et c'est surtout, c'est très drôle.
Oui,
surtout.
La question que j'allais poser, effectivement, c'est une série qui est drôle. Toi aussi, évidemment, tu fais de la scène, mais tu fais du théâtre. Est-ce que, question bête, mais c'est quelque chose que tu auras envie de faire, toi, pas Ted Lasso, mais en tout cas une série comme
bien
ça,
sûr.
Marrante.
Mais en fait, tu sais, j'ai même... Alors, pour l'instant, je vais faire genre, parce qu'on est à l'antenne, de pas avoir trop d'ego. Mais non, j'ai pas ce truc, en tout cas, je l'ai plus ou moins, d'avoir ma série, de faire mon truc, la série de Morgane Cadignan sur ma vie, mon enfance, mes traumas, et en faire un truc marrant. Mais juste écrire pour d'autres, mais juste en tout cas écrire pour la fiction humoristique des rôles de femmes. J'aimerais beaucoup parce que je trouve qu'il y en a pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de rôles de femmes absurdes. Il n'y a pas de femmes médiocres. Il n'y a pas de Jonathan Cohen de ZNE. Tu vois. Et je trouve que écrire des personnages cons ou absurdes, ou juste de nana qui n'arrive pas, il y a ça beaucoup aux États-Unis, en Angleterre et tout. Et je le retrouve pas trop, ou peu en France.
C'est vrai, je suis en train de réfléchir en t'écoutant. Il y a assez peu de femmes qui sont pas forcément les femmes surpuissantes, mais juste des femmes normales.
Ouais. Dans ce qu'on voit, la femme, c'est la plus intelligente dans le groupe de mecs un peu stupides. Exactement. C'est elle qui arrive avec son savoir et qui dit elle et qui calme un peu tout le monde. Moi, j'aimerais bien. Bah, il y a eu un peu ça. Si, il y a eu un peu ça dans La Flamme, etc. Quand il y a toutes les nanas, il y en a, mais t'as pété, machin. Donc, il y a des trucs très, très drôles. Mais juste une série autour d'une meuf comme ça, j'aimerais beaucoup.
C'est vrai qu'on n'a pas encore eu des Tina Fey ou des Amy Poehler. Enfin, on a sûrement des gens qui ont ce talent-là, mais des séries qui ont pu exister autour de, portées par des femmes.
Et où les séries n'étaient pas sur elles. Parce qu'en fait, il y a plein. Tu vois, Florence Foresti a fait sa série qui est Désordre, que moi j'ai trouvé génial, mais on est quand même dans l'autofiction. Moi, je voudrais inventer des personnages totalement fictionnels qui n'existent pas. Une Michael Scott de The Office au féminin. J'aimerais beaucoup voir ça. Et puis, si je peux participer à l'écrire, je suis très contente.
Morgane Cadignan, le moment est grave.
Oh là là, j'ai pas envie.
C'est l'heure de la question qui tue.
Ça va, parce que j'ai dit j'ai pas envie, je croyais que t'allais dire l'émission est finie, mais...
Elle va s'arrêter au bout d'un moment. Enfin,
après la question qui tue, à mon avis, on s'en rapproche.
On s'en rapproche, t'as tout compris. Le spectacle s'appelle La Nuit, je mens, j'ai dit qu'on parlait de mensonges. On se ment tous à nous-mêmes. Morgane, quelle est la plus grande vérité sur toi que tu as du mal à accepter, à reconnaître? Le plus grand mensonge envers toi-même?
Je vais prendre une minute. Tu vois, ça aurait pas démérité de l'avoir en avance.
Non, mais bon, voilà, au cas où la psy a pas fini le boulot, là, j'ai une minute pour.
Est-ce qu'elle l'a commencé, la psy?
C'est pas gentil, parce qu'en plus, tu dis que t'as vu une thérapie.
La plus grande vérité sur moi, le truc inavouable.
Ouais. Ou quelque chose, en tout cas, tu sais que tu te mens à toi-même et tu veux pas accepter ça.
Alors, c'est plus le cas maintenant.
Ah.
Mais. Il y a eu une très très longue période où j'ai vraiment clamé haut et fort, et surtout pour moi-même, que j'avais pas envie d'amour. Tu sais, pour aller un peu contre, pour un peu ériger ton cynisme, dire rien, mais ça c'est pour les autres. Et en fait, je crois que mon romantisme et mon côté fleur bleue à mort s'assume de plus en plus depuis pas longtemps. Mais il y a vraiment eu des années où j'allais regarder mes petites comédies romantiques avec Cameron Diaz dans l'intimité, en cachette, et que j'étais hyper cynique et hyper sarcastique face aux autres filles, mais ce qui était une manière d'être, enfin ce qui était un très mauvais féminisme, j'ai pas été une alliée du tout, de dire un bébé, une maison de campagne. Non, mais tu vois, limite un peu la honte, mais un snobisme des sentiments nul, quoi. Et voilà, ça c'est en train de se calmer. Et je le dis maintenant que aimer et être aimé est un truc super que je souhaite à tout le monde, et qu'on a le droit d'avoir envie de la petite vie de tout le monde.
Alors, pardon, parce que moi j'ai débat pareil. J'ai une passion comédie romantique. C'est quoi ta comédie romantique préférée? Si t'en as une comme ça, est-ce que t'en aurais une? Moi, je pense que c'est si ça peut. C'est Crazy Stupid Love, que je peux regarder en boucle.
Ouais, elle est super. Je vais rester en France avec L'Arnaqueur.
Très bonne comédie. Romain Duris, c'est Vanessa Paradis.
Que j'ai beaucoup aimé et qui est drôle. Parce qu'une bonne comédie romantique, ça vaut une comédie. Super, Morgane, merci.
Très bien. Bon, Morgane Cagnon, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
Moi
merci
aussi,
beaucoup.
Partagé.
On peut dire que tu es actuellement en tournée, que tu seras à Paris à la Nouvelle Ève dès le 29 janvier prochain.
Tout à fait.
Merci beaucoup,
avec
vraiment.
Plaisir.
Une émission aujourd'hui préparée, comme tous les soirs, par l'excellente Alexia Dacour et le non moins excellent Redouane Tella, réalisée par. Excellent aussi, Gaëtan Colli.
Quelle équipe.
Ils sont tous excellents, c'est assez fou. Programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir, c'était Guillaume Roux. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, et là c'est incroyable, nous allons recevoir Reza, leader du Wu-Tang, et on aura une discussion autour du groupe. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.